Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Présenté en Conseil des ministres jeudi 10 octobre 2024, le projet de loi de finances 2025 prévoit des mesures dites de maîtrise budgétaire pour ramener le déficit de la France à 5% du PIB. Parmi les 60,6 milliards d'euros à dégager, 41,3 milliards d'euros proviendraient de réduction des dépenses publiques. Une mesure en particulier a fait réagir le domaine des médias. 10 millions d'euros en moins pour le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, ou FSER, destiné aux radios associatives, alors que le montant global du budget du ministère de la Culture reste, lui, inchangé. Le FSER étant une subvention majeure pour les radios étudiantes, Radio Campus Paris a interrogé Christophe Bête-Bédé, délégué général du SNRL, un des deux grands syndicats des radios associatives avec le CNRA. Vous écoutez Univox sur vos Radio Campus.
Bonsoir Christophe Bête-Bédé, donc vous êtes délégué général du SNRL, syndicat national des radios libres. Quand on parle de la coupe budgétaire, effectivement, c'est la baisse annoncée, en tout cas dans le projet de loi de finances 2025 du FSER. Donc le FSER, je rappelle pour contextualiser pour les auditeurs, c'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est une subvention allouée par le ministère de la Culture. Et donc c'est une aide financière qui est destinée aux radios associatives herziennes qui émettent sur la bande FM en France. En tout cas pour les radios qui peuvent justifier d'une mission d'intérêt général et de local et de proximité. Christophe Bête-Bédé, déjà la première question que posait un petit peu Héloïse dans l'édito. Est-ce que c'est la fin des radios associatives, en tout cas telles qu'on les connaît ?
Ah, ça peut l'être. Ça peut l'être, d'autant que en plus de la réduction drastique qui est proposé dans le PLF pour 2025.
Baisse de 35%.
Ouais. 35%. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de documents là, qui sont annexés au budget, à la proposition de budget. Et dans l'un d'entre eux, on parle également d'une baisse pour 2026 et 2027. Donc le message, il est assez clair. Déjà 35% de moins dès cette année, bon, c'est un coup de guillotine, c'est la manière dont on a communiqué. Et à moyen terme, ça peut être la mort des radios associatives telles qu'on les connaît.
Sur cette baisse de 35%, Héloïse le disait tout à l'heure, on passerait de 35 millions à 24 millions d'euros alloués à toutes les radios associatives qui sont réparties sur tout le territoire. Hein, c'est vraiment une subvention nationale. Le FSER, ça existe depuis 2008 sous la forme qu'on connaît. Est-ce que c'est la première baisse aussi drastique qu'on peut connaître ? Et à quelle époque, à l'époque de quel gouvernement ça avait eu lieu ? Si c'est déjà arrivé ou vraiment là c'est la première fois.
Alors c'est très simple, on n'a jamais connu ça.
Ouais.
Jamais. Le FSER a été institué dès 86 avec la loi de communication et d'information qui a été votée à l'unanimité à l'époque par l'Assemblée nationale. Et le fonds de soutien, alors les radios associatives sont inscrites dans la loi. Alors ça fait pas très glamour mais ça fait un sacré statut, c'est-à-dire qu'elles font partie de la loi. Le fait de mettre en doute le FSER qui a été adossé à cette loi, mais ça met carrément en doute toute la loi de 1986. Voilà. Là, on en est là. Donc depuis 2008, où il est vrai qu'il est institué de cette manière-là, le fonds n'a jamais été raboté. Il y a eu, chaque année, il y a des négociations avec les syndicats, il y a un peu de bataille. Parfois, il a été gelé, mais diminué jamais. Et là, une réduction pareille, c'est exceptionnel. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous a pris complètement de court quand on l'a su. Parce qu'en plus, c'était complètement à contre-courant, de l'ambiance actuelle. Alors, il y a des paradoxes.
De quelle ambiance vous parlez
Alors, l'ambiance du contexte général des médias. C'est-à-dire qu'à la fois, on connaît le contexte des médias, qui, bon, c'est pas folichon, je le dis comme ça, voilà, pour rester...
Beaucoup d'endroits,
oui. Ouais, voilà, économiquement, que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel, les marchés pubs qui tombent, avec la concurrence, l'émergence d'Internet et autres. Donc, économiquement, c'est pas terrible. Il y a une vraie crise de vocation des journalistes. Ça, on le voit, les jeunes journalistes, au bout de 7 ans, en moyenne, ils quittent leur boulot. Voilà. Ce qui était une vocation avant, et puis la plupart d'entre nous, j'ai envie de dire, on est rentrés quand même dans la radio ou pour suivre l'info par vocation. Hein, voilà. Alors, militantisme, c'est peut-être un grand mot, mais par vocation réelle, l'envie de faire de l'info. Et là, il y a une crise qu'on n'a pas connue. Enfin, c'est très nouveau. Voilà. C'est depuis 4-5 ans là, que tous les syndicats de journalistes, d'ailleurs, la relèvent. Voilà. Déjà, le contexte des médias, il n'est pas folichon. Et pourtant, il y avait des démarches qui tendaient à essayer de répondre à cette crise. C'est-à-dire, il y a eu les états généraux de l'information qui ont été lancés par l'État, hein, par le gouvernement actuel, quand même, il faut le rappeler.
En tout cas, qui est dans la continuité extrêmement nette des précédents. Ouais,
voilà.
Donc, de ceux qui ont institué ces états généraux. Ouais.
C'est ça. Et dans le même temps, il y a un projet de loi de protection des journalistes là, qui est en train d'être évoqué au Sénat, à l'Assemblée. Et pam, c'est en plein milieu de ce contexte, quelque part, que tombe cette coupe. Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a ces démarches-là. En même temps, c'est vrai qu'on avait eu des signaux les mois et les années avant. Hein. Avant l'été, on parlait quand même de privatisation de Radio France et France Télé. Parce que ça aussi, c'est une sacrée révolution. Bon, voilà. Et les procédures Bayon envers certains journalistes. Bon, il y a quelque chose qui est très injonction contradictoire, qui vient un peu du même niveau. Et là, ce coup-ci, ben, ça tombe sur les radios associatives.
Et est-ce que le fait que que la guillotine ait été orientée plutôt vers les radios associatives, est-ce que c'est aussi une conséquence de la montée en puissance du Rassemblement national dans l'hémicycle, puisqu'on peut rappeler que pendant la campagne des législatives anticipées qu'on a connue en juin, le Rassemblement national prévoyait déjà une baisse significative du FSER. En plus, justement, vous le disiez, de la proposition de privatisation des groupes Radio France et France Télévisions, là où l'actuelle majorité, qui était à peu près la majorité, la minorité qui gouverne aujourd'hui et qui était la majorité relative précédente, proposait une fusion de Radio France et de France Télé. Là, le RN, c'était carrément la privatisation de ces deux groupes. Est-ce que ça a été orienté par le RN ou est-ce que ce sont des clés données au Rassemblement national pour peut-être adoucir d'autres parts de la négociation? Est-ce que vous avez des...
Alors là, l'interprétation est
soit des infos, soit des hypothèses, hein, évidemment.
Très compliqué. Oui. Des hypothèses, on en a eu au départ, quand on a demandé des explications. Parce qu'en plus de ça, cette annonce, elle nous a pris complètement de court, mais tout le monde de la radio. Hein.
Ça date de la semaine dernière.
Ouais. Ça date de la semaine dernière. Et l'autre incongruité, pour ne pas dire autre chose, c'est que ça n'a pas été du tout communiqué. Sur le site du ministère de la Culture, vous ne trouverez aucune info sur cette annonce. Il n'y a rien du tout. La ministre de la Culture a communiqué récemment autour du Pass Culture, du Centre National de la Musique, du Patrimoine. Par contre, sur les radios, rien du tout. Donc, savoir les raisons...
C'est par voie de presse que c'est arrivé.
C'est par voie de presse que c'est arrivé. Voilà. Et on l'a su par une presse très spécialisée qui nous a un peu lâché l'info. Ne serait-ce que pour la vérifier, ça a été quasi impossible. Il a fallu qu'on appelle carrément le cabinet de la ministre. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est la décision vient de Bercy, du ministère des Finances. Il faut faire des économies. En gros, la décision vient de Bercy. On n'a pas d'autres infos. Politiquement, c'est compliqué à dire. La seule chose qu'on peut dire, parce que c'est un fait qui est indéniable, c'est que ça arrive avec ce nouveau gouvernement. Alors, contexte de réduction budgétaire, si on veut, mais là, on ne parle pas de réduction. Là, on parle quand même de 10 millions sur un fonds de 35, de ciblage sur les radios associatives, parce que les autres aides à la presse ne diminuent pas. Elles ne sont pas touchées.
Et les autres aides à la culture aussi, d'une manière générale, puisque peut-être qu'on peut préciser que, effectivement, le ministère de la Culture n'a jamais communiqué sur cette baisse du FSER. Et d'autant plus, il y a d'autres informations qui ont été révélées sur le budget de la culture, notamment un article de Télérama qui date de la semaine dernière, qui disait que le budget du ministère de la Culture allait être quasiment identique
identique
au budget de 2024. Comment ça se fait que... pourquoi le ciblage sur les radios associatives et les médias en général plutôt que le spectacle vivant, l'audiovisuel, l'audiovisuel plutôt artistique, pourquoi les médias?
C'est la question à 10 millions pour le coup. Non, vraiment, on n'a pas de réponse. Alors, on a eu une rencontre là avec la ministre la semaine dernière
avec Rachida Dati,
Rachida Dati en direct. On n'a pas eu de réponse précise sur ce sujet-là. on nous dit encore une fois que ça vient de Bercy. Et on a vu passer une info là, sur un site d'info en ligne, une réponse de Bercy qui disait que le ministère de la Culture avait toute l'autonomie et l'attitude pour décider comment y ventiler son budget. Donc ils se renvoient la balle les uns les autres.
Et comment est-ce que vous avez déjà des remontées déjà sur on va parler des conséquences plutôt en deuxième partie d'interview des conséquences que ça pourra avoir sur les radios associatives qui seront très différentes puisque il y a autant de radios associatives qu'il n'y a de tout ont leur singularité et tout ont leur modèle économique qui sont bien distincts. Mais déjà, est-ce que vous avez des remontées des radios associatives qui sont adhérentes du SNRL à propos de juste cette opacité du ministère de la Culture et, du ministère des Finances aussi, du coup.
Alors, la remontée en interne, ça a été la stupeur puissance 10 000, j'ai envie de dire, parce que déjà, nous, on n'y croyait pas. Alors, quand on a su ça, c'était le jeudi, c'était quoi, le 11 octobre, je crois.
C'était mercredi dernier, il me semble.
Voilà, quand on a commencé à communiquer, les radios n'y croyaient pas. Ouais. La moitié n'a pas réagi. On a mis un certain temps, enfin tout le week-end, à bien expliquer, informer, expliquer sur ce qui se passait.
Et à digérer aussi cette information.
On n'a pas beaucoup digéré, là on a réagi de suite.
Ouais, vous êtes encore en train
ouais.
De...
Oui.
Est-ce que vous aviez justement anticipé aussi, je parlais du Rassemblement National tout à l'heure qui prévoyait une baisse du FSER, est-ce que c'était déjà une chose que vous aviez discuté au sein du SNRL, mais aussi il y a un autre syndicat des radios associatives qui représente les radios associatives qui existent, est-ce que c'était déjà une chose que vous aviez, dont vous aviez discuté d'une éventualité de baisse?
Non, de la baisse, pas du tout. Pas du tout, parce que ces dernières années, le fonds n'a fait qu'augmenter, se renforcer. En plus, sur proposition et du ministère de la Culture, des ministères de la Culture précédents, ouais. Et de l'Assemblée nationale, quasi à l'unanimité à chaque fois. Et pour des raisons très concrètes, d'augmentation du nombre de radios avec les fréquences numériques, ce genre de choses. Il y avait même une aide pour les radios en zone de revitalisation rurale qui avait été actée. Là, pour cette année, dans le cadre du budget de la culture. Donc, quelque part, il y avait une valorisation, une reconnaissance du boulot qui se faisait, notamment sur les territoires, hein, les territoires ruraux et d'outre-mer. Bon, là aussi, il y a un peu de politique, mais bon, voilà, l'outre-mer, il y a quelques problèmes, donc on vient les aider. Et c'est une bonne chose, hein, voilà.
Oui.
Mais donc, il y a cette aide, et en même temps, on rabote de 10 millions. Donc, c'est complètement incompréhensible.
Peut-être une toute dernière question très rapide avant la pause musicale. Le FSER, il y a encore un doute sur comment va être matérialisée cette baisse aussi, parce que le FSER, c'est une, en tout cas à l'échelle de Radio Campus Paris, on le demande, c'est une subvention qui est demandée dans le cadre quasiment d'un appel à projet par le ministère de la Culture, donc on le demande plutôt en avril-mai, donc il y a encore un doute sur l'impact. Est-ce que ça va plutôt impacter les radios émergentes ou est-ce que ça va augmenter, enfin, est-ce que vous avez des informations sur comment la baisse sera ciblée?
Non, et rien puis tout, on refuse d'en discuter, voilà. Ouais. Pour le dire clairement, pour nous, il est hors de question même qu'il y ait une baisse aujourd'hui. Tellement le ciblage était fort et on le considère comme une attaque contre le secteur des médias, que pour nous, il est hors de question même d'accepter une baisse ne serait-ce que de 2 millions d'euros.
Bah, merci pour cette première partie, on se retrouve juste après pour parler des conséquences, mais d'abord, on écoute le bien nommé radio de Lana Del Rey.
Not even they can stop me now. Would I be flying overhead? The heavy words can't bring me down. Boy, I've been raised from the dead. I don't even notice how hard life was. I don't even think about it now because I'm you. Sing it to me. Now my life is sweet.
C'était Radio de Lana Del Rey.
Univox. On est toujours avec Christophe Bédbédé, donc délégué général du SNRL, Syndicat National des Radios Libres. Et on parle de la baisse prévue par le projet de loi de finances 2025 du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, dont Radio Campus Paris est concerné, mais ainsi que toutes les radios associatives, ou presque, bénéficient de cette subvention. Et c'est une part très importante du revenu de ces radios. Il y a d'autres subventions qui peuvent être allouées à certaines radios associatives. Ça, évidemment, c'est au cas par cas. On ne va pas rentrer dans le détail de ça se compte en trois chiffres les radios associatives qui bénéficient du FSER, donc on va pas pouvoir, mais ceci dit, non, c'est intéressant. Le FSER, ça finance combien de radios associatives aujourd'hui sur le territoire?
Alors, ouais, c'est 750 radios qui sont concernées,
donc c'est absolument énorme.
Voilà, quasi la quasi-totalité. Très simplement. Ouais. Et ça représente en moyenne 40% du budget des radios.
C'est la question que j'allais vous poser justement.
J'ai anticipé.
Ben c'est très bien, non, c'est une bonne chose. Et donc il faut savoir, peut-être qu'il y a des auditeuristes qui ne savent pas trop comment fonctionnent les radios associatives. Peut-être que vous pourrez nous parler des spécificités. Mais par exemple, à l'échelle de Radio Campus Paris, le FSER, je crois que c'est peut-être un peu plus de la moitié, en tout cas c'est notre subvention principale comme beaucoup de radios associatives, et ça nous permet évidemment de payer le magnifique matériel qui nous permet d'émettre sur le 93.9 et le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France, mais aussi de payer des salaires puisqu'on a 4 salariés, de participer aussi à l'indemnisation de services civiques qu'on a aussi en nombre de 4 chez nous, et il y a énormément de radios qui sont concernées justement en termes de masse salariale. Qu'est-ce que le FSER, ça finance quoi en général dans ces radios-là? Ça ressemble à ce qu'on a chez nous, ou est-ce qu'il y a d'autres
Ouais, de ce qui est décrit, je dirais que vous êtes dans la moyenne des radios associatives.
Yes, on va avoir le bac.
Ouais, c'est ça, c'est à peu près 40% du budget. En moyenne, c'est 3 équivalents temps plein.
Ouais.
Hein, quand on prend les 750 radios. Voilà, donc effectivement, il y a de tout. Il y a des radios qui continuent de fonctionner même sans salariés, rien qu'avec des bénévoles. Il y a énormément de radios qui fonctionnent à 1 ou 2 salariés. Et c'est pour cela d'ailleurs que, sans rentrer dans des calculs
trop savants,
c'est très simple. Il y a environ 200 radios qui fonctionnent à 1 ou 2 salariés. Baisse de 30% de leur subvention, bon, c'est réglé.
C'est au moins un poste en moins.
Ah ben, c'est un poste en moins, donc ces radios-là,
voire tous,
voilà, où elles ne fonctionnent plus. Voilà, où elle fonctionne avec des bénévoles. Mais là, c'est quand, coup de guillotine. Là, c'est réglé en un an. On considère qu'il y a 200 radios qui peuvent disparaître, effectivement.
Sachant que du coup, bah, on en parlait avant la pause musicale, mais comme ça arrivait un peu comme un coup de massue, on ne sait pas trop dans quelle mesure ça va être prolongé aussi, puisque vous disiez que ça pourrait être une baisse progressive aussi, qui pourrait aussi atteindre le budget de 2026 et de 2027. Est-ce que vous avez aussi des remontées justement sur les inquiétudes en termes de... C'est principalement les masses salariales qui sont menacées aujourd'hui?
Ouais, mais la vie des radios en fait. Parce que lié au fonctionnement de la radio, c'est les salariés, les animateurs, les journalistes qui font vivre la radio de plus en plus. Bon, je parlais des radios qui fonctionnaient qu'avec des bénévoles, mais c'est une minorité aujourd'hui.
Et en général, c'est des radios qui sont en attente d'avoir le FSER un jour. Quoi. Enfin, c'est,
aussi,
on, voilà. on peut commencer, ça a été le cas, il me semble, de Radio Campus Paris. J'étais pas là il y a 25 ans, je mets à coup de pas, mais j'étais pas né. Mais le FSER n'existait pas encore complètement. Enfin, il n'y avait pas de finances. Et pendant plusieurs années, avant qu'il y ait des salaires, la radio existait en autonomie, par les bénévoles, la grille était... Enfin, toutes les petites choses qu'on peut avoir par Radio Campus Paris, l'entretien du matériel, c'était pas un salarié technique qui le faisait, c'était les bénévoles. La grille était composée par les bénévoles et on m'a raconté il y a quelques mois, avant qu'il y ait des salariés, comment se constituaient les grilles d'antenne. Et je pense que pour le bien-être de tous les bénévoles de Radio Associatif, faut garder des salariés à l'antenne parce que ça, c'est des week-ends de négociations de quelles émissions vont à quelle heure. Enfin, c'est pour cette minorité-là, ça doit être quand même très compliqué aussi à gérer. Et ça m'amène justement à cette autre question. Comment ça contraint les radios sur leurs autres ça pourrait contraindre les radios sur leurs autres sources de financement. En général, il y a d'autres sources des subventions publiques, mais est-ce que ça va contraindre les radios, je dis n'importe quoi, mais à s'ouvrir à la publicité, à s'ouvrir au mécénat, est-ce qu'il y a des recours qui pourront compenser le FSER? Alors, même partiellement.
Alors, avant de parler des recours, il faut parler de la seconde lame. C'est-à-dire,
quelle est la seconde lame?
La première lame, réduction de la subvention FSER. Oui. La seconde lame, c'est que dans le modèle des radios associatives, le modèle des radios associatives, des radios de catégorie A,
pas très glamour,
il y a des catégories de radios. Et les radios de catégorie A, pour bénéficier de la dotation FSER, elles sont soumises à un plafond de recettes publicitaires de 20% de leurs ressources. Bon, on a un budget de 100 000 euros, on peut faire que 20 000 euros de pub dans ce budget de 100 000. Alors, c'est très simple. Si la subvention FSER diminue de 30%, mettons 15 000 ou 20 000 euros, donc le budget global de la radio diminue, donc le plafond de pub diminue. Donc la seconde lame, c'est que en perdant des subventions FSER, on perd potentiellement des ressources publicitaires, même si la plupart des radios associatives ne fonctionnent pas du tout avec la pub, ils ne sont pas à 20%. En tout cas, potentiellement, il y a cette seconde lame. Et la troisième, c'est que la plupart des radios associatives également fonctionnent avec des subventions des collectivités locales. Et là, dans le PLF 2025, qui c'est qui prend cher aussi sur...
C'est les collectivités.
C'est les collectivités territoriales. Et j'ai presque envie de dire une quatrième lame, mais bon, là, j'ai pas envie de faire un avenir trop noir.
C'est tout un arsenal, hein, oui.
Ah oui, là, la quatrième lame, c'est que également les radios associatives, les autres sources de financement, c'est généralement, notamment sur l'éducation aux médias, voilà, des ateliers qui sont faits avec écoles, universités ou autres, EHPAD, etc.
Et puis qui peut être une vraie source de revenus aussi pour les radios.
Ouais. Qui peut être une vraie source de revenus. L'éducation nationale est aussi touchée par des réductions assez fortes. Et le monde associatif, les partenaires des radios associatives, à qui on ouvre nos micros, c'est généralement ceux qui n'ont pas souvent accès aux micros des médias, principalement les associations autour de nous. Et qui c'est qui est raboté tout autant que nous au niveau du PLF? C'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc bon, je ne veux pas faire un panorama trop noir, mais la réalité, elle est là. C'est que si en plus, le fonds de soutien, qui est vraiment, c'est la pierre angulaire, en fait, de ce qui fait, de ce qui maintient le fonctionnement d'une radio associative. S'il y a autant de radios en France, c'est parce qu'il y a le fonds de soutien. C'est parce qu'il y a la loi de 86 et c'est parce qu'il y a le fonds de soutien. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, en plus, ce truc-là. C'est une expression,
c'est une spécificité.
C'est une spécificité, ouais. La fameuse exception culturelle, elle y est dans le monde des médias en France. Et celle-là, on vient lui balancer une bombe dessus, voilà.
Et on en arrive à la question du coup des leviers. Qu'est-ce qui existe déjà à votre échelle en tant que syndicat, en tout cas pour le SNRL, donc Syndicat National des Radios Libres, quels sont les leviers qui peuvent exister, sachant que on parle de 35 ou 24 millions d'euros, ça dépendra de si ça aboutit ou pas, mais on peut entre guillemets dire que c'est peu par rapport à l'ensemble du budget. Comment on mobilise sur cette question-là? Est-ce qu'il y a une intersyndicale avec d'autres syndicats concernés par la cure d'austérité que nous prépare ce projet de loi de finances, avec laquelle ce serait possible de lancer un mouvement plus large? Quels sont les leviers qui existent?
Ouais, tout à fait, mais là c'est très juste. Les 10 millions, finalement, c'est une goutte d'eau au milieu des 60 milliards. Par contre, cette goutte d'eau pour nous...
D'autres ministres de la culture ont dit que c'était des problèmes de riches, quoi. Voilà. Les questions de budget de la culture.
Tout à fait. Là, c'est détruire un secteur complet. Et alors, je vais faire une toute petite digression, oui, bien sûr, mais ouais. Sur les s'attaquer aux radios associatives, c'est attaquer tout le secteur de la radio, parce que vous l'évoquiez. Si les radios associatives commencent à faire plus de pubs, ça a un impact sur les radios qui vivent de la pub.
Sur la régie publicitaire.
Sur les régies publicitaires. Donc ça déséquilibre tout le secteur. Au niveau des leviers, donc oui, effectivement, dès le départ, on a bossé ensemble avec... il y a une autre organisation représentative des radios associatives, la CNRA. Ça fait déjà un an. Alors là, pour le coup, on avait senti le coup, il faut croire. On a été visionnaire. On avait créé une association commune pour justement...
mettre les ressources en commun.
Voilà, ouais. Et puis pour créer surtout un espace de rencontre, de discussion avec la CNRA. Et puis l'idée, c'était d'étendre au réseau, comme Campus, Ferraroc, etc. Parce qu'il y a des problématiques communes. Évidemment, il y avait le FSR. Ouais. Donc finalement, ça tombe pile dedans. Et donc, on bosse ensemble, main dans la main, là, on est, pour le coup. Et les premières actions, ben, ça a été surtout d'informer. Informer, alerter, alors que ça soit nos radios, les parlementaires, parce que avec la présentation donc par le gouvernement, ensuite c'est tout un calendrier qui se met en branle et qui commence dès demain d'ailleurs à l'Assemblée nationale où le budget culture.
S'agissant de la culture, parce que ça a commencé aujourd'hui.
Voilà pour les finances, etc. Ouais. Pour les crédits, ça a déjà commencé. Mais par contre là, c'est à marche forcée. Hein. Donc la ministre de la Culture, elle est reçue demain en commission culture de l'Assemblée nationale et puis c'est l'examen des premiers amendements, etc. Donc, l'urgence des urgences, c'était de toucher l'ensemble des parlementaires, députés et puis sénateurs et sénatrices, parce que ça vient derrière.
Ça va être amendé au Sénat, évidemment.
Voilà.
Eh bien, je pense qu'on va conclure là-dessus. Évidemment, on pourra suivre les actualités de Radio Campus Paris Relais RAL et les mobilisations éventuelles organisées par le SNRL et le CNRA, si d'aventure il y en a, ou dans le cadre d'autres, de quelque chose de plus large aussi.
Ça va être très long.
Et ça va être une longue bataille. Merci beaucoup, Christophe Bettebédé, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode d'Univox dédié à la baisse du FSER, la subvention majeure des radios associatives en France. Animation et montage, Philippe Fischer. Interview, Simon Marie et Louise Robert. Réalisation, Fabrice Tiercy. Depuis l'enregistrement de cette interview, des députés socialistes, macronistes et du Rassemblement National ont déposé des amendements pour rétablir le budget du FSER, soutenu par la ministre de la Culture Rachida Dati lors de son audition par l'Assemblée nationale ce mardi 22 octobre. L'amendement proposé par la députée Renaissance Julie Delpech a été adopté par la Commission des affaires culturelles le 23 octobre. Il sera maintenant soumis au vote à l'Assemblée nationale. Pour suivre l'évolution du sujet, rendez-vous sur snrl.fr, cnra.fr ou, encore mieux, sur vos radios campus.
Univox.